Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Solo, le nouvel épisode tiré de l'univers Star Wars, sort aujourd'hui en salle. Rencontre dans un instant avec l'acteur américain qui incarne Han Solo jeune. Il s'est confié à Stéphane Boudsocq. Nous entendrons également Marion Cotillard à l'affiche du film Gueule d'Ange et rendez-vous au 3210 où nous vous offrirons des DVD du film Normandie nue avec François Cluzet. Dans l'actu musicale, on découvrira avec Steven Bellery la reprise étonnante qui réunit Maître Gims et Slimane et nous écouterons les nouvelles chansons du Texan Leon Bridges et de la chanteuse malienne Fatoumata. Et puis à la télévision ce soir, le démarrage sur France 2 à 21h d'une nouvelle série Maman à tort, adaptée du best-seller de Michel Mussy. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais tout d'abord, nous allons bien entendu revenir sur l'information de la nuit avec le correspondant d'RTL à New York. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est la disparition de Philip Roth, l'un des plus grands écrivains américains qui avait un grand succès, notamment en France. Il avait 85 ans.
Oui, le grand romancier avait reçu à peu près tous les honneurs, tous les prix littéraires, mais il n'aura pas attendu le prix Nobel qui lui était promis année après année. 27 romans depuis 1959, on peut citer « J'ai épousé un communiste »,« Pastorale américaine »,« La tâche », Philip Roth se camouflait sous des personnages récurrents qui n'étaient au fond que des doubles, car il ne parlait que de lui, c'était un écrivain de l'identité. L'identité d'homme, de mâle, dont il crachait le désir sexuel, libidineux, jusqu'à la luxure sordide, dans Portnoy et son complexe. Il raconte page après page l'obsession d'un ado pour la masturbation, y compris avec un gant de baseball ou un morceau de foie cru prévu pour le dîner. L'identité juive, le regard féroce sur le gamin juif, névrotique d'une famille juive étouffante du quartier juif de Newark dans le New Jersey. Et puis l'identité américaine, les mythes, les rêves américains rattrapés par les ombres, les obsessions, les traumatismes. Dans le complot contre l'Amérique, il imaginait l'élection à la Maison Blanche du populiste et isolationniste Charles Lindbergh en 1940, au cri de l'Amérique d'abord, la montée du nationalisme, du racisme et finalement du fascisme. À ceux qui comparaient son personnage à Trump, Philip Roth répondait que le président n'a que l'idéologie creuse d'un mégalo, ignorant, sans nuance, sans décence, avec seulement 77 mots de vocabulaire. Philip Roth avait pris sa retraite après Nemesis en 2010. Voici ce qu'il disait alors à la radio américaine NPR.
It's hard. C'est difficile d'abandonner quelque chose que vous avez fait pendant 55 ans, qui a été au centre de votre vie, sur lequel vous avez passé 6, 8, parfois 10 heures par jour. J'ai toujours travaillé tous les jours. Comment un obsédé peut-il abandonner ce qu'il fait? Vous restez assis, décennie après décennie, et vous essayez d'imaginer quelque chose à partir de rien. Pas simplement l'imaginer, mais en faire une œuvre d'art. Vous le faites depuis si longtemps que vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous êtes en prison.
À défaut de Nobel, Philip Roth venait d'entrer de son vivant dans la collection de la Pléiade, une consécration. Le Washington Post titrait alors qu'il était une superstar littéraire dans notre pays. Et Roth ne savait pas expliquer exactement pourquoi. Il répondait seulement en citant son admiration pour Colette, Camus, Genet et surtout Céline, selon lui le plus grand romancier.
Il avait 85 ans. Merci beaucoup Philippe Corbet. Alors, après deux semaines de Festival de Cannes, on va en revenir à un programme un peu plus classique côté cinéma. Bonjour Stéphane Boudsocq.
Bonjour à tous.
On verra dans un instant d'ailleurs que les principales nouveautés du jour ont aussi fait l'événement sur la croisette. Mais d'abord, notre box-office et une question. Est-ce que les films présentés durant le festival et déjà sortis en salle ont attiré un peu de monde?
Alors, il y a plusieurs réponses possibles à votre question. Nos amis du site cbo.fr confirment le succès de Everybody Knows, le film d'Asghar Farhadi qui avait fait l'ouverture avec Penélope Cruz et Javier Bardem. Plus de 530 000 entrées en deux semaines. Oui, c'est un joli démarrage. C'est plus compliqué pour En guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. On est autour des 90 000 spectateurs. Et puis L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, film RTL de clôture, sorti samedi soir, donc toute petite amplitude, autour de 25 000 spectateurs, samedi soir et dimanche. On attendra évidemment les chiffres sur une semaine, mais le gros score de cette semaine, c'est Deadpool 2, qui a déjà été vu par plus d'1 200 000 spectateurs. Avengers a passé les 4,6 millions et Taxi 5, les 3,5 millions.
11 nouveaux films sont donc à l'affiche ce 23 mai, notamment Solo de Ron Howard, que vous avez vu Stéphane il y a une semaine à Cannes.
Je vous en avais parlé en compagnie du réalisateur oscarisé d'Apollo 13, Da Vinci Code ou encore Cocoon. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter celui qui incarne les jeunes années de Han Solo dans ce film qui, comme Rogue One l'an dernier, explore les histoires parallèles de l'univers des trilogies classiques de la Guerre des Étoiles. Alden Ehrenreich est un acteur américain de 28 ans. On l'a peu vu, mais on l'a croisé chez Woody Allen, Francis Ford Coppola ou chez les frères Coen. Ce rôle évidemment, va changer la donne pour lui. Solo, formidable western spatial, ni plus ni moins, présente le hors-la-loi de la galaxie au moment où il rencontre Chewbacca, avant qu'il ne devienne le héros des épisodes 4, 5, 6 et 7, sous les traits très connus d'Harrison Ford. Question, tiens, justement, comment faire oublier ça au public? Réponse d'Alden Ehrenreich.
C'est ça le vrai boulot, en fait. Réussir à s'approprier le personnage, y croire soi-même pour lui donner vie. En faisant ça, vous devenez crédible aux yeux des gens et ils acceptent l'idée que vous êtes ce type-là. Mais le scénario m'a grandement aidé, ainsi que les autres acteurs. Tout le monde semblait aimer Han Solo. Et puis franchement, le costume y est pour beaucoup, ainsi que la coiffure et les petites astuces de maquillage. Vous savez, quand vous avez l'étui à pistolet autour de la cuisse, vous croyez à l'univers Star Wars.
Bonne gueule, œil pétillant de la tchatch, Alden Ehrenreich trouve vite sa place dans le film avec un joli moment quand Han Solo découvre le Faucon Millennium appelé à devenir son vaisseau spatial de légende. L'acteur s'est vite pris au jeu sur le plateau dans ce décor emblématique de Star Wars.
C'est dingue. Si vous saviez comme c'est excitant de marcher à l'intérieur parce qu'on a l'impression de le connaître. Moi, j'ai imaginé y être quand j'étais gamin et m'y retrouver vraiment, c'était juste magique. Là, j'étais quand même dans le cockpit du vrai Faucon Millennium. Et puis, au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que vous savez à quoi servent les boutons, comment le faire décoller. C'est un peu devenu votre vaisseau.
Solo, donc, à découvrir au cinéma ce mercredi l'an prochain. Attention, 9e épisode de la saga Star Wars, avant le lancement d'une 4e trilogie. Et côté histoire parallèle, eh ben, le prochain film pourrait être consacré à Obi-Wan Kenobi, maître Jedi, mentor et formateur d'Anakin Skywalker, autrement dit le futur Dark Vador.
Le cinéma français à présent, Stéphane, et là aussi vous nous parlez d'un film présenté à Cannes cette année, Gueule d'ange, de Vanessa Philo, avec Marion Cotillard.
Un premier film pour cette jeune réalisatrice, vue dans la sélection Un certain regard, l'histoire de Marlène, une bimbo du midi, égoïste et cervelée, qui veut vivre, s'amuser, profiter de la vie. Sauf que Marlène a une petite fille, gamine qu'elle néglige, jusqu'à s'absenter plusieurs jours durant, laissant l'enfant livrée à elle-même. Film assez rude, touchant, avec les qualités et les défauts d'un premier long métrage, mais qui peut compter sur deux actrices formidables, la petite Eileen Etex, incroyable gamine, et donc Marion Cotillard, surmaquillée, habillée façon cagole, vulgaire et belle à la fois. Rôle de composition que la star a joué comme d'habitude dans S'y investissant totalement, sans jamais juger son personnage. Pourtant, faut le dire, assez déplaisant.
Il y a quelques années, j'ai été confrontée à une histoire qui ne me touchait pas moi personnellement, mais qui touchait des gens très proches de moi, d'une maman qui est partie, qui a abandonné ses enfants. J'ai été très heurtée à ce moment-là par le jugement de l'entourage, plus ou moins proche d'ailleurs, qui se permettait quelque part de la juger. Et j'ai été heurtée parce qu'à partir du moment donné où on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur de la tête et du cœur de cette femme, on n'est pas en droit de la juger. Du coup, quand j'ai lu le scénario de Vanessa, ça me permettait d'aller encore un petit peu plus loin dans cette réflexion et ce questionnement.
Marion Cotillard qui a aujourd'hui les épaules, la carrière pour ce style de rôle, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les femmes abîmées jouées par Romy Schneider, par exemple chez Claude Sautet. L'actrice est aussi la maman de deux enfants. Elle reconnaît que le personnage de Marlène lui aurait parlé différemment il y a de cela quelques années.
Je pense que je l'aurais joué différemment, évidemment. Mais je pense que j'aurais pas eu de mal à comprendre ce non-amour pour soi et puis ce sentiment d'abandon de la part de l'enfant. Bah parce que j'ai été une enfant, parce que je suis l'enfant de mes parents, toujours, à vie. Et puis parce que le mal-être de Marlène... Voilà, je l'ai plus ou moins approché aussi dans ma vie personnelle. Donc c'est forcément, on se sert aussi de nos expériences personnelles pour faire des films. Mais évidemment, je l'aurais pas joué de la même façon. Aussi pour la simple et bonne raison qu'il y a 10 ans, j'avais moins exploré. J'avais peut-être moins de liberté dans le jeu parce que j'avais plus de jugement sur moi-même que ce que je n'ai aujourd'hui.
Gueule d'ange de Vanessa Philo avec donc Marion Cotillard et aussi un acteur épatant qui s'appelle Alban Lenoir. Découvrez ça aujourd'hui au cinéma. Autre sortie française, La fête des mères de Marie Castille Mention Char, film choral qui pose des questions intéressantes sur la maternité, la féminité, la sexualité, mais qui répond avec beaucoup, beaucoup et même trop de personnages. Des situations assez convenues à travers une présidente de la République, par exemple une avocate, une fleuriste, une journaliste. On s'y perd, on s'y ennuie aussi malgré la bonne volonté d'un très joli casting. Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Marie Marie-Christine Barrault ou encore Nicole Garcia, c'est bien dommage.
Quelques curiosités pour terminer cette revue de film, Stéphane.
Ultime clin d'œil canois, tiens, Manifesto de Julian Rosenfeld avec Cate Blanchett, l'impériale présidente du Festival 2018, il tient pas moins de 13 rôles différents dans un film quasi expérimental qui s'intéresse, et pas toujours nous, aux textes fondateurs de mouvements artistiques comme le dadaïsme ou le surréalisme. Si vous avez Bac plus 16 et deux maîtrises de philosophie appliquée à l'histoire de l'art, ça va vous intéresser. Enfin, deux documentaires, l'un consacré à Hubert Reeves et son travail militant de protection de notre biodiversité, ça s'appelle La Terre vue du cœur, et un autre baptisé Le cerveau des enfants, raconté par Mathieu Ricard, qui nous plonge dans les méandres neurologiques du développement des bébés et permet de comprendre ce qui forme leur caractère, leur personnalité et comment les aider à grandir plus sereinement. C'est vraiment passionnant.
Ça, vous nous l'avez bien vendu. Notre cadeau du jour à présent, nous vous offrons ce matin des DVD du film Normandie Nue, réalisé par Philippe Leguet avec François Cluzet. DVD édité par M6 Vidéo, et pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Comment s'appelle le personnage joué par Marion Cotillard dans le film Gueule d'ange? Est-ce Marlène ou est-ce Marilyn?
Votre réponse au 3210 et dans quelques instants, on parle télévision. Même tout de suite, allez, c'est parti avec les audiences. Médiamétrie, ce qui s'est passé hier soir à la télé, Isabelle.
C'est cela. En tête, L'Arme fatale, 4 200 000 téléspectateurs sur TF1. C'est 268 000 personnes de plus seulement que Tandem brillant deuxième sur la 3. Suit ensuite Cash Investigation, 2 810 000 téléspectateurs sur France 2, à peu près 13% du public. Et c'est Cash précède de peu The Island, célébrité sur M6. Et côté TNT, c'est le formidable feuilleton Safe qui est en tête sur C8, près d'un million de téléspectateurs avec Audrey Fleurot.
Merci Isabelle. On vous retrouve à la fin de l'émission pour notre soirée télévisée. Dans un instant, Slimane et Maître Gims font partie des curiosités du jour avec Steven Belloy.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
On va maintenant s'intéresser à l'actualité musicale avec vous, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence par une reprise totalement improbable. Cinq artistes de la scène urbaine revisitent le show révolutionnaire Bella Ciao.
Eh oui, chant de révolte italien, né au début du XXe siècle, devenu hymne à l'engagement, celui des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, morceau remis au goût du jour par la série phénomène de Netflix La Casa des Papel. Le groupe de braqueurs en fait son cri de ralliement. Depuis quelques semaines, les reprises pullule, en voici une qui pourrait bien devenir l'un des tubes de l'été, déjà numéro un des ventes. Naestro, Dadju, Vita, Slimane chantent Bella Ciao, et c'est Maître Gims qui ouvre le bal de sa voix de ténor.
Una mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi son svegliato ed ho trovato l'invaso.
Puis vient Slimane.
J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao.
Il y a quelques communistes qui doivent se retourner dans leur tombe. Maestro, Dadju, Vita, Slimane et Maître Gims chantent Bella Ciao. C'est loin du message originel, mais ça le mérite de faire revivre.
Qu'ils fassent une version italienne et qu'on les leur envoie cet été pour voir qu'elle.
C'est déjà en vente en téléchargement les Italiens.
Alors, au rayon disque également, la sortie de Good Thing. C'est le deuxième album du Texan Leon Bridges, Steven.
Oui, Leon Bridges, 28 ans, nouvel espoir de la soul music. Son premier opus, Coming Home, paru en 2015, lui avait fait faire le tour du monde jusqu'à chanter devant Barack Obama. On le comparait déjà à Sam Cooke, une étiquette si lourde que Leon Bridges ouvre radicalement son spectre sur ce deuxième disque, exemple avec Bad Bad News.
I don't worry, don't worry, don't worry about people in my face. I hit them with the styling breeze and watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish, I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray.
Plus éclectique, plus riche, ce deuxième album gagne en relief. Ça a une touche de blues, là, de funk. Leon Bridges raconte pour RTL son envie de moderniser sa soul.
Je ne voulais pas être associé à cette étiquette de musicien rétro soul pour le reste de ma carrière. Je suis vraiment plus que ça. J'ai cherché à créer un son plus audacieux, une sorte de R&B moderne et émouvant. Et vocalement, c'est différent aussi, car je ne pensais pas avoir un aussi bon falsetto. Je me suis lâché en studio. J'avais choisi d'enregistrer avec un micro basique à $300. Alors qu'il y en avait plein qui coûtaient des milliers de dollars. Je chantais au milieu des musiciens en live, c'était génial. J'ai eu une mère protectrice, j'ai grandi dans un environnement très religieux, je n'ai pas pu expérimenter beaucoup de choses en dehors de la maison. Alors dès que j'ai commencé à faire des concerts, j'ai grandi.
S'appelle Good Thing. Lui, c'est Leon Bridges. Il chantera aux Eurocan de Belfort le 6 juillet et le 3 novembre au Trianon à Paris.
Un petit côté désuet, mais tout à fait charmant.
Joli et séduisant chez ce Léon. Hein. Alors, autre nouveauté au rayon disque, la sortie de Fenfo, de la malienne Fatoumata Diawara. C'est la nouvelle star de la World Music, Steven.
Oui, c'était l'une des voix de l'Amomali, l'épatant projet collectif de Mathieu Chédid. On l'a vu au cinéma, dans Timbuktu, et bientôt aux côtés d'Omar Sy dans le prochain film de Philippe Godot. Depuis la sortie de son premier opus en 2011, sa cote a explosé. Elle a multiplié duos et collaborations, notamment avec Herbie Hancock. Voici l'une des chansons de son nouvel album. Ça s'appelle Enterini. Morceaux sont très engagés, ils évoquent le respect, l'humilité, la famille et surtout la question de la migration. Fatoumata Diawara a d'ailleurs choisi de chanter en Bambara, sa langue maternelle. Confidence.
J'aime chanter en Bambara parce que c'est la langue avec laquelle je me sens plus en harmonie. Et surtout que je me suis rendu compte qu'avec cette langue-là, j'ai eu la chance de rencontrer des très très grands artistes avec qui j'ai pu collaborer. Et c'est de fait que j'avais quelque chose de différent. Encore une fois, la musique me montre que ma différence est une valeur. J'ai une liste pas possible de collaboration à mon jeune âge avec un seul album. J'avais envie de vraiment continuer le chemin que Angélique Kidjo avait pris, par exemple, Myriam Makeba ou Sangaré, toutes ces dames-là qui ont choisi un chemin un peu plus difficile de la musique, mais il y a une place pour cela. Moi, j'aborde les thèmes en fonction de ma sensibilité. J'aime pas l'injustice. Et du coup, l'immigration est très important pour moi parce que c'est des jeunes qui ont été à l'école, qui ont reçu une éducation. Tout le monde est important. Ton sang est rouge, le mien il est rouge, et justement, tant mieux qu'on soit différents, quoi. C'est tellement magnifique.
Fatoumata Diawara publie son album Fenfo vendredi. Il a été produit par Mathieu Chédid. Elle chantera aux Nuits de Fourvière le 3 juin, au Franco de la Rochelle le 11 juillet ou encore le 11 décembre au Trianon à Paris.
J'allais vous dire, c'est bien produit, un son formidable. Enfin, on vous dévoile ce matin le nom du quatrième et dernier lauréat du concours 2018, mon premier grand studio RTL.
Vous avez été très nombreux à voter sur RTL.fr. Il fallait départager 5 finalistes et c'est un duo parisien qui a décroché son billet pour venir chanter dans le grand studio RTL. Il s'appelle Ben and Slain, extrait de leur chanson The Breeze. Le duo duo guitare-voix folk Ben and Slane rejoint donc l'affiche de mon premier grand studio RTL aux côtés des artistes déjà qualifiés Amélie McCandless, Clarisse May et Martin Luminé. Tous chanteront sur la scène du grand studio en présence de Nolwenn Leroy, la marraine de l'édition 2018 de notre concours. Cette émission sera diffusée le samedi 23 juin à 15h sur RTL.
Merci pour toutes ces infos musicales, Steven Bellery. Dans un instant, le grand retour de la télévision, Isabelle Morini-Bosque, restez avec nous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
On parlait de cinéma, j'essaie de savoir si Chewbacca et Han Solo avaient une petite aventure ensemble.
Non, mon grand,
c'était une bêtise. Alors, ce soir à la télévision, d'abord quelques mots sur Cauchemar en cuisine, que vous nous recommandez évidemment sur M6.
Ah ouais, alors, nouveaux inédits de cette série où le chef doublement étoilé Philippe Etchebest aide des restaurateurs en difficulté, 6 restaurants fermant chaque jour. Ce soir, direction Marseille, chez Aline et Sandrine.
J'ai hâte.
Deux sœurs surréalistes dont la devanture du resto ressemble plus à une boîte où on danse qu'à une boîte où on mange. Échantillon, Sandrine cuisine des rognons au madère, ludique. Ni elle est cuisinière, ni elle sait faire les rognons au madère.
Je sens que si ça continue, les rognons au madère, je vais pas les faire.
Alors, si tu fais pas les rognons au madère, tu vas me faire quoi?
Je vais faire en sorte de les faire.
Ben alors, ne dis pas, je vais pas les faire.
Et des fois, voilà. On se demande quand même.
J'ai adoré cet épisode. Passionnant, touchant et je l'avoue, désopilant. Un épisode plus savoureux que leur cuisine. Je pense que vous allez aimer.
Oui, ah ben ça, il n'y a pas de doute. Autre coup de cœur pour le feuilleton Maman a tort, c'est sur la 2 cette
adapté fois-ci. Du polar de Michel Bussy. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur. J'ai absolument tout adoré. L'intrigue policière, un final exceptionnel dans 3 semaines, les acteurs et le cinéaste François Vell, fils du comédien Louis Vell et de l'écrivain Frédéric Hébrard. Oui. Il est si apprécié des Américains qu'il a tourné des épisodes de Bones et j'adore sa façon de filmer, notamment Le Havre. L'histoire, pourquoi un petit garçon de 4 ans affirme-t-il que ses parents ne sont pas ses parents et que sa vraie mère est au ciel? Le psychologue scolaire essaye désespérément d'alerter Marianne, la commandante régnant sur son commissariat et sur ses hommes. Papy, le beau flic parti de rien, est revenu de tout. Et JB, le multi-père de famille, son adjoint. Là, les deux flics observent leur patronne face au beau psy de l'école.
Pourquoi est-ce qu'il se confie à vous?
Parce que c'est mon métier. C'est qui ce type là? Tu crois que c'est son mec là? Oh putain, regarde les minutes. Regarde les minutes.
Elle minute pas, elle écoute.
Non, regarde discrètement, 2 minutes. Regarde la petite étincelle dans ses yeux.
Qui tu connais toi, la petite étincelle dans les yeux des femmes, hein?
Voilà. Elle, c'est la prodigieuse Anne Charrier. Vraiment, elle est phénoménale. Papy, le raisonnable Pascal Elbé. Et JB, le raisonneur, Gilles Alma, c'est le bellâtre de nos chers voisins. Il est très, très beau. Ils sont tous absolument épatants. Mais au fait, Pascal Elbé et Gilles Alma, ils avaient lu Michel Bussy?
Non. Moi, oui. Tiens, pas fait, oui. Enfin, non. Ah oui, enfin, moi, je l'ai lu quand on m'a dit que j'allais tourner dedans. Voilà, c'est ça, les histoires. Mais toi aussi.
Non, j'attendais de voir la série avant de m'engager. Après, je me suis intéressé à son travail. Ce que j'ai appris qu'il était, d'ailleurs, ça se ressent dans son écriture, c'est ce que j'aime. Il était géographe, donc ses personnages et ses intrigues sont très ancrés dans le territoire. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait des mines en Normandie, ce que je ne savais pas. On avait une scène dans un cimetière. La série n'est pas que. C'est un peu plus joyeux par moments aussi. Hein, mais grâce à notre duo, pour éviter toujours les sempiternelles scènes de flics en attente, machin, on essaie de donner une espèce de quotidienneté. Les gens du Havre, voilà. Et qu'est-ce que je vous disais?
Une scène dans un cimetière, vous voyez,
oui,
que j'écoute.
Bravo. Et dans un cimetière, on voyait un peu toute cette génération d'immigrés qui venaient de Pologne notamment, qui sont arrivés en Normandie pour aller dans la mine. Vous savez, ça partait très vite. C'est effarant de voir une région sinistrée où ça partait à 40, 45 ans, parfois plus jeune. Le talent de Bussy, c'est de restituer un peu cet univers, cette ambiance, et ça donne une couleur, on va dire, un univers dans le polar qui est assez réjouissant.
Ça, c'est vrai. Tous ont adoré Le Havre et François Vell qui nous a offert une bien belle image à la 23e minute et 57 secondes du 3e épisode. C'est Gilles Alma nu sous sa douche. Mais comme ça se passera la semaine prochaine, on en parlera la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Dans quelques instants, on se retrouve pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Alors, tout ça nous fait quand même du 9h31, mais on vous fait des cadeaux. Et la question qui vous était posée, c'est comment s'appelle le personnage joué par Marion Cotillard dans le film Gueule d'Ange?
Elle s'appelle Marlène.
Voilà. Et si vous nous avez appelé au 3210, eh bien, vous avez gagné le DVD de Normandie nu réalisé par Philippe Leguet avec François Cluzet.
Je suis obligé, une nouvelle fois, d'adresser un procès verbal.
Un procès verbal?
9h31, tu notes Marcel Calvi.
On va pas avoir le temps de parler de votre grand retour dans l'Hérault.
Vous êtes en avance, donc Yves, prenons un peu le temps.
temps pour discuter. Comment allez-vous?
Ça, vous voyez, ça change tout de suite de ton. Alors, avant de dresser procès verbal, je précise que ça a lieu le samedi 26 et puis le 27.
Ce qui est important, Yves, c'est qu'effectivement, on va dans l'Hérault ce week-end, là, à Lunel et Pouget. Mais après, je le précise, pour tous ceux qui viendront au spectacle, nous dormons tous chez Maître Félonneau qui habite là-bas.
Ah bon?
Elle habite à côté, donc j'invite tout le monde. Grande soirée barbecue. Elle fera la cuisine pour tout le monde. Vous pourrez venir. On peut dormir chez elle. Donc n'hésitez pas, venez, ça fait partie
du. Elle danse aussi, il y a un spectacle prévu.
Après, il y a des suppléments évidemment à la demande.
Oui.
Mais vous voyez, c'est chacun adapte selon son budget. Voilà mon Yves.
Bah, vous nous donnez presque envie de descendre. Hein.
Bah, je vais de monter, j'espère, une fois sur place.
Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente émission. Je crois qu'on a bien fait le point.
Allez, merci mon Yves. À demain.